Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Résignons-nous.
Carte blanche.
C'est eux qui employaient la menace du gros bâton.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane Bureau, bonjour.
Salut, Philippe Vincent.
Alors, tu veux revenir. As-tu acheté ton parka, finalement, un gros manteau d'hiver?
Je suis équipé pour la pointe historique de demain soir, sinon samedi matin, moins 40. J'aurai tout ce qu'il faut.
Moi, je t'en puis, combine en fait, dans le studio, hein, juste que tu saches.
Mais c'est parce que Pierre-Carles ne chauffe plus. Hein, on économise partout.
Non. Le studio ici est drôlement chaud ou froid. Là, ça dépend des caprices de l'animateur.
Ça dépend ou des invités.
Ouais, on chauffe avec nos questions. OK, tu veux me parler du Columbia Journalism Review qui s'est penché il y a quelques jours sur toute cette histoire de Donald Trump en élection, le Russiagate, le dossier, dossier.
Le Russiagate, parce qu'il y a dans Donald Trump en élection plusieurs volets possibles, mais ici on parle du Russiagate.
Quel dossier, c'est ça?
Comment dis-tu?
C'était le dossier des prostituées, puis qui venait d'un...
Okay. Parce que c'est devenu, pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, cette idée des liens secrets entre le Kremlin et M. Trump, une affaire qui a occupé beaucoup d'espace. Donc, je vais une fois encore te parler de nous, des médias, qui sommes de plus en plus des sujets d'actualité. Il y a une époque, quand même pas si lointaine, hein, où les médias d'information, les journalistes étaient... sans être parfaitement neutre, quand même, le trait d'union entre l'actualité, les nouvelles ou les acteurs de la nouvelle et le public, c'est très rare qu'on était le sujet de l'actualité. Il y a toujours eu des enjeux d'éthique, des erreurs ponctuelles qui ont été corrigées ou même des scandales, c'est-à-dire carrément on s'en souvient, tu sais, des journalistes qui ont inventé de toutes pièces des histoires. Mais c'était toujours à la marge, puis ça intéressait finalement assez peu de gens. Si on avait à faire simple, je te dirais que si notre pratique ou la pratique des médias et des journalistes n'était pas parfaite, la confiance, elle, était grande. Je vais choisir ici une icône universellement reconnue. C'est quand Bernard de Rome disait quelque chose, on présumait que c'était fondé. C'est plus totalement faux aujourd'hui, mais on peut quand même s'entendre pour dire que le paysage a beaucoup changé. La confiance à l'endroit des médias diminue progressivement. Au Québec, à un moindre degré. En France, aux États-Unis, c'est terrible. On peut certainement parler de désamour. C'est inquiétant du point de vue démocratique. L'avènement des médias sociaux, du journalisme citoyen, ça a évidemment participé à ébranler ce qu'on pourrait appeler le monopole des grands joueurs traditionnels. Mais aussi des moments pivots qui ont eu des impacts ou qui ont aujourd'hui des impacts sur la confiance générale. Et c'est là qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu mettais en ligne pour la piste avec le Columbia Journalism Review. On retourne aux États-Unis encore une fois. Le Columbia Journalism Review, c'est un peu l'équivalent d'un journal scientifique pour le monde, qui par ailleurs n'est jamais très scientifique, le monde du journalisme. C'est la Bible, en tout cas une des Bibles, une référence dans le monde nord-américain de l'information. Un magazine donc qui ausculte la pratique, l'éthique, puis de manière générale, je te dirais, la santé du journalisme.
Est-ce que c'est associé à l'Université Columbia?
Absolument.
Ah, c'est ça.
C'est associé à l'une des grandes facultés, sinon la plus grande faculté de journalisme au pays, Columbia.
Après l'UQAM.
Après l'UQAM, toujours dans tous les classements, toujours l'UQAM, puis après ça, timidement, Columbia. Mais tu pourras en parler avec ta collègue, Sophie Durocher, qui a étudié, je pense,
à
la faculté de journalisme là-bas. C'est du lourd. Je ne parle pas de Sophie, mais de la faculté. Ils viennent de consacrer un énorme dossier ventilé en 4 volets sur ce qu'on a appelé le Russiagate. Je répète donc Russiagate, parce que c'est beaucoup d'affaires, mais essentiellement les liens profond qui aurait uni la campagne de Donald Trump dès 2016 avec le Kremlin, une information ou des informations qui ont fait la une de tous les réseaux journaux pendant la campagne présidentielle, durant aussi les deux premières années de sa présidence. Ça a amené éventuellement à la vaste enquête, non pas menée par un média, mais par l'ancien patron du FBI, Robert Mueller. Il y a une théorie donc du complot, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a d'ailleurs valu, ou cette théorie du complot a valu un prestigieux Pulitzer, qui est quand même la plus haute récompense en journalisme aux États-Unis, conjointement au Washington Post et au New York Times, c'était en 2018, pour leur enquête menée sur le Russiagate. L'essentiel de la théorie est assez facile à comprendre, hein? Pas besoin de revenir dans les détails, mais Vladimir Poutine et ses maîtres espions tiraient les ficelles en coulisses de la marionnette Trump qu'il faisait chanter. C'est gros, ça, vraiment. Rachel Maddow à la CNBC, parce que je pense qu'elle détient le record, a dû consacrer pendant des années un sujet à tous les soirs à cette affaire-là. C'est clair que c'était celle qui avait peut-être le plus ses dents autour du mollet de l'histoire. Ça a commencé avec les serveurs secrets qui auraient peut-être relié Trump Tower, où habitait le président, à de mystérieux correspondants en Russie. Ça s'est pas avéré. Mais surtout, tu en as parlé tout à l'heure, au fameux dossier Steele, qui avait été préparé par un ancien espion anglais et qui documentait toute la compromat, l'information compromettante dont auraient disposé les services secrets russes pour contrôler Trump à distance. On parlait effectivement de relations avec des prostituées russes et de type de relations sexuelles. Je rentrerai pas dans les détails, mais qui, évidemment...
Pouvait faire rire jaune.
Qui faisait, ou qui pourrait effectivement faire rire jaune. Je vois que tu maîtrises parfaitement les principes de la douche de même couleur. Donc, le rapport de l'espion anglais avait été commandé, on l'a appris ensuite, par un bureau d'avocats qui avait été, lui, payé par la campagne de Mme Clinton. Surtout, c'était pas fondé, même s'il a été éventuellement démontré que le rapport était du pipeau, bidon. Il a continué longtemps à servir de base au travail d'enquête de plusieurs organisations, aussi au Congrès, il faut le souligner. Et le Columbia Journalism Review a passé, lui, 18 mois à faire l'autopsie de cette grave fracture à toutes les règles éthiques de la profession, à cet entêtement à créer un fil narratif, certes attrayant, hein, j'en doute pas un instant, pour tous ceux qui pouvaient détester M. Trump ou redoutaient son influence néfaste, mais c'est surtout ce qui est important, qui n'était pas fondé. Le New York Times est particulièrement dans le viseur de l'enquête du CRG qui démontre la mauvaise foi à répétition, sinon la complicité active du journal, à pas présenter toutes les facettes de l'histoire du Russiagate à ses lecteurs. Par exemple, en janvier 2018, un an après l'investiture de M. Trump, le journal avait entre les mains, je répète, avait entre les mains un document qui démontrait que le principal enquêteur sur l'affaire au FBI ne pouvait pas démontrer avec son équipe qu'il y avait eu collusion entre Trump et les Russes. Une information qui s'est jamais retrouvée à la une, ni ailleurs dans le journal, probablement parce qu'elle contredisait la ligne éditoriale de l'institution, dont la devise, je le rappelle, est « All the news that's fit to print », toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées ou publiées, parce qu'imprimer, c'était à l'époque où ça se passait sur papier. Donc, une devise qui est correcte, sauf quand ça fait pas l'affaire du journal, apparemment. Les règles de déontologie interne du journal sur les attributions anonymes ont aussi été violées à répétition, selon le CGR, clairement pour permettre de maintenir en vie une histoire qui l'était pas. L'enquête de M. Mueller, qui avait d'abord été accueilli comme la preuve que les soupçons étaient bien fondés, évidemment, a été une déconvenue parce que au cours de son enquête, le Columbia Journalism Review a montré que le New York Times a été vraiment pris de court et choqué, dit-on, dans la salle des journalistes, en fait, dans la salle de nouvelles, quand Mueller a conclu qu'il n'avait pas d'éléments de preuve pour appuyer la thèse d'une collusion entre Trump et le Kremlin. Alors, le journal, tout comme le Washington Post, ne semble, pour l'instant en tout cas, pas troublé par l'enquête, qui n'a pas le retentissement qu'on pourrait imaginer, sauf peut-être à Cube. Il refuse de s'expliquer, pas de commentaires aux médias, qui en ont demandé, refusent aussi de renoncer au Pulitzer qu'ils ont remporté pour avoir mené une enquête dont les conclusions ne seraient pas conformes à la vérité. Fake news pour de vraies récompenses, personnellement, ça me semble problématique. Puis, j'ai envie, parce que tu dis que c'est exceptionnel, moi, j'ai envie de te faire retourner dans l'histoire, l'histoire longue. Il y a le journaliste Walter Duranty, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Pour te donner une idée, je n'étais pas né, moi, quand il travaillait, c'est donc dire que ça fait longtemps.
Ben, je pense que c'est genre Walter. De nom connu dans l'histoire journalistique, mais vas-y.
Alors, Walter Duranty était, c'est encore lié au New York Times, était correspondant. Il a remporté un prix, lui aussi, Pulitzer en 1932, pour une série d'articles publiés alors qu'il était correspondant à Moscou sur, là j'en ai peut-être un peu, les miracles de l'Union soviétique. C'était peut-être pas présenté comme des miracles. Et où il avait passé totalement sous silence la famine organisée en Ukraine, ce qu'on appelle l'Holodomor, que certains aujourd'hui reconnaissent. Quand je dis certains, je parle de pays qui reconnaissent comme un génocide, cet Holodomor. La preuve a été faite depuis que Duranty était parfaitement au courant, complice des mensonges du Kremlin, très ami même avec les plus hautes autorités. Pour simplifier, donc, Duranty était probablement au service de Staline, sinon d'une idéologie qu'il embrassait, ce qui est tout à fait permis. Quand t'es journaliste, c'est plus problématique. Il y a un film extrêmement intéressant, assez obscur, malheureusement, qui a été fait récemment. Ça s'appelle Mr. Jones, qui porte exactement sur cette affaire. C'est Peter Sarsgaard qui joue le rôle de Duranty. Ça a été réalisé par Agnieszka Holland, si je me rappelle bien. Ça avait été même en compétition festival à Berlin. Alors, je le recommande chaudement pour les amateurs d'histoire dont on n'entend pas parler. Il y a un mouvement qui avait été organisé au début des années 90 à la lumière d'informations déclassifiées pour que le New York Times fasse le beau geste et renonce à ce Pulitzer obtenu en 32, peut-être au nom de l'élégance déontologique, à tout le moins au nom du doute. Ça aurait été une bonne raison. Le prestigieux prix est toujours au tableau de chasse de la noble institution qui ne publie, je le rappelle, que la vérité, juste la vérité, toute la vérité. Et c'est intéressant, tout ça, parce que je ne sais pas si c'est passé sur ton écran radar. La semaine dernière, dans le cadre de ces enquêtes, je sais que tu l'aimes beaucoup sur les Twitter Files, Matt Taibbi mettait au jour le mensonge assez gros d'une organisation qui s'appelle toujours Hamilton 68, fondée par deux poids lourds démocrates et républicains, travaillant donc main dans la main, au nom de l'unanimité sur les dangers ou les menaces à la sécurité nationale. Hamilton 68 était un organisme qui se voit démasquer la propagande russe, particulièrement cette propagande amplifiée grâce aux réseaux sociaux. C'est là que ça nous amène aux Twitter Files. Et ils ont développé un outil d'analyse qui était mis à la disposition des journaux, des médias, qui leur permettait, disait-il, de suivre plus de 600 comptes, je pense que c'est 640 des comptes Twitter, qui étaient, disait-il, sous le contrôle de Moscou et qui amplifiaient les messages que la propagande du Kremlin estimait utiles. Et aussi, ajoutait-il, faisait des ravages avec ses amplificateurs. Leur outil a servi, c'est très documenté, ils ont été cités partout. Leur outil a servi des milliers de fois dans des articles pour faire la preuve justement que Moscou influençait le débat public grâce à ses faux comptes puissants, des robots aussi, on disait. Après analyse, Twitter, qui avait été informé, est arrivé à la conclusion que c'était de la bouillie pour les chats. Il y a même un des hauts patrons qui disait que c'était dangereux, mais on l'a plutôt invité à dire « n'en parlons pas tout de suite ». Alors, de fait, il y a une trentaine de ces comptes qui étaient liés, entre autres, à Russia TV, le média qui est aujourd'hui banni de nos antennes. Ça, c'est tout à fait fondé. Mais la majorité de ces 600 et plus comptes étaient de vrais comptes qui appartenaient à des usagers américains, anglais et canadiens, jamais contrôlés par les services secrets russes, qui pensaient peut-être un peu différemment de ce qu'est l'orthodoxie. Mais il y a des gens de tous horizons confondus, un constitutionnaliste qui enseigne à Chicago. On le sait parce que Taibbi a choisi une vingtaine, sinon une trentaine de comptes pour appeler et dire « Pensez-vous avoir jamais été influencé par la Russie, par les Russes? » Les gens étaient en tabarnouche d'apprendre qu'ils avaient fait partie partie de cet outil d'analyse qui supposément pouvait permettre de faire la démonstration des manipulations du Kremlin. Donc, vraiment en torieux. Tout ça pour dire que de la propagande, les Russes en font très certainement, comme les Américains en font, comme les Canadiens en font peut-être. Ils se sont très certainement aussi mêlés du processus électoral. Mais ce qu'on découvre, c'est qu'il y avait aussi des Américains, démocrates et républicains, travaillant main dans la main, qui se sont fait fort de dénoncer des acteurs tout à fait légitimes dans l'espace public. En général aussi parce que ils étaient plutôt favorables, par exemple, à Trump et que ça devenait la preuve d'une manipulation du Kremlin. Je le dis dans le cadre, évidemment, de ce qu'on racontait ou je te racontais tout à l'heure sur l'enquête menée sur les pratiques du New York Times et de quelques autres journaux autour de l'affaire du Russiagate. C'est fâcheux. On n'en parle pas beaucoup. Et quand on est à se demander ce qui fait qu'il y a une crise de crédibilité, je pense qu'on a nécessairement, et quand je dis ça, je sais que je me fais pas d'amis, mais on a nécessairement à se poser des questions parce que nos meilleures pratiques sont les seules garantes d'une confiance.
C'est tout ce qu'on a.
C'est ce qu'on veut occuper.
C'est tout ce qu'on a, la confiance du public.
Exact, exact. D'ailleurs, je me permets une plug, mais c'est pas mal intéressant, sinon beaucoup, beaucoup. Le nouvel épisode de mon balado Contact est avec Marie-France Bazot, qui a beaucoup réfléchi à ça et qui avait été accueillie très froidement quand elle a écrit un essai sur les médias au Québec. Elle disait qu'on méritait mieux, c'était le titre de son essai. Et à distance, elle pense qu'elle avait évidemment mis le doigt sur quelque chose. Elle a été assez, je dirais pas maltraitée, mais disons assez ignorée, parce qu'entre nous qui demandons toujours des comptes aux autres, on est très mauvais à s'ausculter. Et elle parle du risque, sinon de la présence de l'autocensure, de la peur dans nos pratiques. Moi, ça m'a pas rassuré. En fait, ça m'a certainement un peu inquiété. Je l'ai trouvé très courageux de parler de ces choses-là. Une heure avec elle, c'est sur Contact, le petit podcast sympathique que j'ai lancé la semaine dernière.
À découvrir, Stéphane, et on se garde quelques sujets pour demain, vendredi. Ah, ça fait du bien.
On parlera peut-être de Tucker Carlson demain.
Y a-tu fait des siennes encore?
Mais c'est tellement rigolo. Puis aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, une motion aux communes à Ottawa.
Okay, on en parle demain.
On se parle de ça
demain. Garde-moi ça pour demain. Salut.
Cool, bye.